les podcasts de Radio Vatican.
Pour la 12e fois, une nuit des veilleurs est organisée ce lundi 26 juin. Des milliers de chrétiens sont invités à prier pour les victimes de la torture, fléau qui frappe de nombreux pays sur la planète. Organisé par l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, cet événement propose aux participants de porter par la prière et d'envoyer des messages de soutien à plusieurs victimes. Cette année figure parmi eux un militant politique de Djibouti, toujours détenu en prison malgré l'annulation de sa peine, ou un paysan du Chiapas au Mexique qui s'est opposé à l'implantation de méga-projets de développement sur ces terres et est en détention provisoire où il est victime de décharges électriques. Mais intéressons-nous à la Guinée-Conakry où la torture, malgré des efforts du gouvernement, est encore hélas monnaie courante. Clément Boursin est le responsable des programmes Afrique à la CAT.
Il faut savoir que la Guinée revient de loin quand même. C'est un état où on a en fait un président de la République issu du monde, on va dire, civil depuis seulement deux mandats. Auparavant, nous avions une succession de régimes militaires, notamment avec un certain nombre de coups d'État, et les militaires ont toujours joué une place importante en Guinée. Donc là, depuis deux mandats, on a des civils au pouvoir, mais il n'en demeure pas moins que les forces de l'ordre, les forces de sécurité dans le pays restent un maillon important au niveau étatique, et on a des habitudes ancrées chez ces personnes de maltraitance dans les traitements des détenus de droit commun. Donc c'est beaucoup au moment de l'arrestation de personnes qui sont soupçonnées de délits. Donc on les arrête violemment, notamment également dans la garde à vue, pour les faire avouer. On use souvent de la violence physique et morale. Et donc ça se joue avec des coups de bâton, des violences, des gifles, parfois des tortures plus importantes. Comme on appelle ça la brochette, c'est-à-dire une personne qui est attachée sur un bâton, on le fait tourner autour d'un bâton et on le frappe à ce moment-là, voire on le brûle. Il y a des actes de torture très graves. Et donc malheureusement, l'aveu est un peu la reine des preuves. Mais il y a également un problème vis-à-vis des répressions de manifestations. Ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement lorsqu'on est dans une période électorale. Là, ce n'est pas le cas actuellement en Guinée, mais dès qu'on a une période d'élection présidentielle ou autre élection, il y a une tension dans le pays et souvent, les opposants sont réprimés dans la rue. Ça entraîne également des actes de torture et des mauvais traitements.
Vous dites aussi que la torture, évidemment, elle ne se concentre pas que dans la capitale, hein, Conakry, mais dans tout le pays. Est-ce que c'est facile de documenter ces actes de torture ?
Non, tout à fait. Vous pointez quelque chose de très intéressant, effectivement. Quand on a commencé à travailler sur la Guinée en 2011, la plupart des informations qui nous parvenaient de manière claire et documentée parvenaient de la capitale Conakry, où sont basées la plupart des grosses ONG de défense des droits de l'homme nationales. Nous a semblé important, avec des partenaires locaux, d'essayer de renforcer les capacités de défenseurs des droits de l'homme à l'intérieur du pays. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2013 pour aider des défenseurs des droits de l'homme à bien comprendre ce qu'était concrètement la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants, faire la différence entre ces différents termes, comment bien documenter, quels sont les éléments de preuve à recueillir, comment également saisir une autorité, rédiger un rapport et enchaîner sur une forme de plaidoyer, de lobbying pour mettre en avant ces cas, pour que les auteurs de ces faits soient jugés ou pour faire en sorte également que cela ne se reproduise pas. Donc c'est un travail de longue haleine et dans les semaines, dans les jours à venir, on va pouvoir publier un rapport à Conakry sur les violations des droits de l'homme en région. Donc effectivement, on a pu documenter avec des partenaires la torture en région qui est également présente mais peu connue.
En juillet 2016, les autorités, le gouvernement guinéen a adopté un nouveau code pénal qui notamment abolit la peine de mort et est censé punir les auteurs de torture, mais vous dites que ce n'est pas suffisamment appliqué.
C'est quand même une amélioration, il y a quand même une volonté politique qui est affichée depuis maintenant pratiquement 10 ans de lutter contre la torture. Donc effectivement, le nouveau code pénal abolit la peine de mort, mais également il définit et criminalise la torture. Donc normalement maintenant, ça permet de sanctionner les auteurs et les responsables de torture. Or, à ce jour, on a quand même un souci. On a concrètement une seule affaire où des gens ont été condamnés pour torture. On a des procès en cours, des instructions qui sont en cours et des enquêtes en cours. Mais toutes ces affaires, en fait, ont été très médiatisées ou portées haut la main par des associations soit nationales, soit internationales, notamment la FIDH qui fait un gros travail en Guinée. Et le souci, c'est que les cas qui ne sont pas connus ne font pas l'objet de la même diligence des autorités. C'est pour ça qu'on a voulu sortir ce rapport également, parce que ce rapport est basé sur 4-5 cas de torture dans l'intérieur du pays, des cas qui relèvent normalement de la justice, et la justice n'a rien fait dans ces cas. Et c'est des affaires qui ont entre 2 et 3-4 ans. Donc normalement, on aurait dû avoir des avancées sur ce sujet, sauf que ces faits n'ont pas été médiatisés. Donc on a un vrai souci de la justice qui ne se saisit pas des faits et des allégations de torture quand elles sont au courant de manière locale. Il faut attendre que la presse ou les grosses ONG se mobilisent pour que la justice fasse son travail.
Et malgré l'adoption de ce nouveau code pénal, vous dites qu'il y a encore quand même un certain flou juridique concernant la torture.
Alors il y a aussi un flou juridique dans le code pénal, effectivement, parce que normalement, d'après les éléments qu'on a dans le code pénal, on peut être emprisonné jusqu'à 20 ans. Mais il y a quand même certaines méthodes que l'on considère comme étant de la torture, ce qui a trait au viol, aux décharges électriques, certaines positions de contorsion qui peuvent amener à des douleurs physiques très importantes. Et elles sont classées dans la catégorie des traitements inhumains, cruels, et pas en tant que torture. Et donc, pour les traitements qui sont inhumains et cruels, d'après le code pénal, on n'a pas de sanctions spécifiques. Et donc, du coup, il y a un petit flou qui peut être interprété par la justice. À nous, maintenant, de faire pression pour que le droit soit appliqué et soit ferme à l'encontre des auteurs et responsables de torture.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.